France Inter.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Une manifestante qui vient de s'attacher là au filet.
Aujourd'hui, on est dans une urgence climatique.
Au pied du poteau.
Et je me suis juste levée parce que c'était mon devoir. Aujourd'hui, je pense qu'on pense beaucoup trop. Il faut juste réaliser en fait où est-ce qu'on est aujourd'hui.
Cette manifestante qui s'est invitée sur le corps Philippe Châtrier.
Et agir. Et c'est ça que j'ai fait en fait. J'ai fait ce que je devais faire.
On ne va pas l'oublier.
Sous les sifflets du public de Roland-Garros, Alizée, militante écologiste de 23 ans, s'est attachée par le cou au filet du cours central. Elle porte un t-shirt blanc sur lequel est écrit « Il nous reste 1028 jours ». Sous-entendu après cela, le retour en arrière sera impossible et notre planète invivable. Alizée a fait 40 heures de garde à vue, mais elle ne regrette rien de son action coup de poing qui s'inscrit dans une démarche qui tend vers plus de radicalité. Face à l'inaction des pouvoirs publics, face à l'urgence climatique, la bonne vieille marche ou la consensuelle manifestation n'ont plus vraiment la cote. La radicalité n'est plus une option pour bon nombre de ces militants écologistes.
Je pense que ça serait impossible en fait de rester dans l'inaction et j'ai beaucoup entendu parler d'éco-anxiété cet été et moi aujourd'hui si je souffre pas d'éco-anxiété je pense que c'est parce que je souffre d'éco-colère.
Des actions de désobéissance civile, de sabotage aussi et parfois de dégradation comme on a pu le voir contre des golfs cet été, ce nouveau type d'action interroge au point où certains opposants s'inquiètent d'y voir les prémices de mouvements extrémistes voire d'un éco-fascisme.
Tant qu'on a des dirigeants qui ne veulent rien voir, ils alimentent une machine qui risque à un moment donné de les dépasser. Le vrai extrémisme, c'est le consumérisme absolu de notre société. En fait, on mobilise l'énergie pour détruire.
Nous commençons ce reportage dans l'Ouest parisien, à Meudon. Des militants d'Extinction Rébellion, appelés également XR, y ont mené une action contre la bétonisation d'une colline, écrin de verdure en plein cœur de la ville. Action non violente, mais illégale. La tentation radicale des militants écolos, c'est un reportage de Mathieu Mondoloni avec une prise de son de Gilles Gallinaro et Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
L'heure de rendez-vous était fixée à 9h et on a reçu un message sur Signal, l'application de messagerie, de la part de Nikos, avec l'adresse exacte que je ne vais pas donner évidemment, et surtout une consigne, toquée à la porte du garage tout en bas du sentier. On se retrouve là, à demain. Demain, c'est aujourd'hui. On est censé retrouver des militants d'Extinction Rébellion, également des riverains de cette ville de Meudon, où nous sommes donc pour cette action, cette opération lancée par le mouvement écologiste. C'est le 27, 25.
Messieurs France Inter.
Donc ce qu'on va faire, quand on va donner le go, on va descendre vers le chantier, donc on va passer par un chemin, par la forêt, enfin la friche. On va se mettre en place. Première chose, c'est Olga et je ne sais pas qui a envie de se mettre sur la grille, va s'attacher donc, à l'entrée, comme ça c'est déjà fait.
Et
tiens.
Essayez de fermer un peu les grilles. Légèrement, tu vois, tirer pour qu'elles ne soient pas grandes ouvertes, si tu arrives.
Il y a des U là. Il y a le stock, il y a un U.
Tu arrives à t'accrocher ou tu as besoin que quelqu'un t'accroche?
Mais 20 mètres.
Ah oui, là, après, bon, c'est quand même tranquille parce qu'il y a très peu de passages. Donc normalement, ce n'est pas la peine de courir. On y va tranquillement, posément. C'est pas la peine de s'affoler, quoi. On a largement le temps de se poser. Il y a personne qui va se jeter sur nous. Peut-être un peu les ouvriers, mais enfin, ils sont quand même dans le chantier à l'intérieur. Donc, le temps qu'ils radinent, le temps qu'ils comprennent surtout.
On laisse nos téléphones ici, tu as dit?
Tous ouais. Ceux qui n'en ont pas besoin, ouais. Ouais, toi, en plus, toi, tu te bloques, donc vaut mieux que tu laisses ton tel, ouais.
Ici, à la base, il y a encore 2 mois de ça, il n'y avait que des arbres. Là, ils les ont rasés, ils ont fait une espèce de saignée sur laquelle vous allez bloquer, là. Et derrière, d'ici un an ou deux, ça sera 28 000 mètres carrés de logement pile à cet endroit-là. Donc, on n'a pas choisi cet endroit pour rien non plus.
28 000 mètres carrés de logement chic face à la vallée de la Seine. C'est un des plus beaux endroits. C'est là où est enterré Rodin, où il avait fait son atelier. C'est une boucle de la Seine magnifique. Ça veut dire 28 000 plus multiplié par au minimum 10 000, ça fait 280 millions. Donc c'est pour ça qu'ils sont acharnés pour faire cet écocide, ce, ce scandale environnemental, détruire un puits de fraîcheur et en plus un endroit mais extraordinaire. C'est merveilleux. On peut faire une architecture du futur incroyable. C'est hallucinant.
J'imagine que c'est pas votre première action. Vous avez une certaine expérience.
Oui, absolument. On est militante Extinction Rébellion et on fait régulièrement des actions de désobéissance civile non violente.
Je peux vous demander vos pseudos ?
Moi, c'est Nanou.
Louchka.
Chalou.
Moi, j'ai 27 ans.
Moi, j'ai 33 ans.
Est-ce qu'il y a un questionnement aujourd'hui sur la radicalité du mouvement ? Est-ce qu'il faut certains débattent chez Extinction Rébellion de la nécessité d'aller plus loin ? Est-ce que ce débat existe au sein des militants ?
Ah, ça, c'est sûr qu'il existe. En fait, toute la difficulté est de garder l'opinion publique et la légitimité de ce qu'on fait. Donc on sait qu'un mouvement qui bascule dans la violence, il peut perdre au niveau sympathie, on va dire.
De toute façon, il y a toujours une diversité des tactiques, c'est-à-dire que nous, on a un mouvement qui est Extinction Rébellion, qui est dans la non-violence, qui aura peut-être plus de tendance à aller vers des actions de sabotage, et pourquoi pas. Mais il y a aussi, en fait, on soutient aussi plein d'autres actions, plein d'autres mouvements qui, eux, ont d'autres tactiques et avec lesquelles on est totalement en soutien parce que, en fait, il est utile de multiplier les points d'attaque, de multiplier les tactiques, de multiplier la possibilité pour les gens de s'engager. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager de manière plus douce, plus pacifique et c'est à chacun de trouver le bon endroit pour agir.
Il faut donner le nom des avocats.
C'est Thomas Bredila.
Bon, si je rappelle à chaque fois, enquête garde à vue. Bon, alors si on vous demande qui organise, nous sommes tous organisateurs. Enquête garde à vue, la petite identité, donc c'est les informations qui sont sur votre carte d'identité, nom, prénom, date de naissance, adresse et lieu de naissance. Et sinon, rien d'autre que je n'ai rien à déclarer. Par contre, ne mentez pas sur votre nom ou votre adresse. D'accord ? Il faut rester calme, il faut être ferme, faites attention, il y en a un qui va jouer de gentil, l'autre de méchant, ou des trucs comme ça, ils sont malins, pour faire parler les gens, ils y vont comme ça à la cool. Vous n'avez rien d'autre à dire que votre petite identité. Pas de profession, pas de numéro de téléphone, rien. C'est vous sur la photo, là, dans l'action, est-ce que c'est vous sur la photo ? Je n'ai rien à déclarer. D'accord ? Voilà, c'est de la désobéissance civile, mais on ne fait pas non plus... on n'est pas des terroristes, quoi, donc il faut aussi relativiser ce qu'on fait. Hein.
Non, on est vacant, on a deux vacants.
C'est un moment pour nous, j'ai hâte sur la fleur.
Tu mets le bracelet autour du poignet, je t'accroche à l'intérieur avec un mousqueton.
Je peux vous demander votre pseudo ?
Fidelio.
Fidelio ? Mm-hmm. Vous avez quel âge, Fidelio ?
30 ans.
Ce sont ces cadenas que vous allez utiliser pour...
Oui.
C'est-à-dire, comment vous faites
Bonne question. C'est la première fois que je fais.
Donc vous l'attachez quoi ? Au cou, c'est ça ?
Oui, c'est au cou, pardon. Ouais.
Au cou et à la grille, quoi.
Ouais.
C'est impressionnant quand même. Puis sans traver le cou, c'est... Vous l'avez déjà fait ?
Moi, non. J'ai jamais été militant de ma vie et j'ai quand même des idées politiques qui sont quand même assez précises. Et c'est un ami qui a intégré XR et qui m'a proposé de le rejoindre. Je suis convaincu qu'on ne vit pas dans un idéal démocratique et que du coup, d'autres moyens sont utiles aujourd'hui, surtout par rapport à l'urgence d'agir. Bon, XR, c'est un mouvement un peu nouveau. C'est parce que les modes d'action et la façon et l'organisation, il y a aussi des choses intéressantes à avoir rien que dans la vie en fait du mouvement. Pour moi, tout ça, ça m'intéresse.
Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, entendu, notamment par le gouvernement, qui a un éveil ou pas du tout ?
Non. Non, moi je suis assez pessimiste. Est-ce qu'on ira assez vite dans la bonne direction pour freiner ? Je pense qu'on en est loin encore. Peut-être que c'est que le début, peut-être que c'est un rouage qui va se mettre comme ça rapidement, mais j'y crois pas trop.
Fidelio, c'est toi sur la necloquée à la grille ?
Ouais.
Ok, très bien.
C'est ok pour toi ?
Ouais.
Ouais.
Non, mais c'est comme vous, je pense que c'est pas. Moi j'aurais préféré ne pas le faire, mais. Je me suis dit que peut-être sur la photo il y aura un homme et une femme. Non, mais je vais le faire moi, je vais le faire, c'est
ok.
Thank you.
Je vais être en route. Allez, ça marche. Du coup, attendez. Ouais, je te rappelle. Allez, ça roule. S'il vous plaît. Bon, on a eu des nouvelles pas très cool. Ça fait 3 jours qu'on surveille le chantier. Les camions arrivent à 10h. Là, au lieu d'avoir les camions qui arrivent, on a les grilles du chantier qui ont été fermées. Pas de camions à l'horizon pour le moment.
Donc, j'ai repéré un moyen d'accès le plus facile. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une courte échelle, par contre, pour enchamber la grille ? Il y a un muret derrière pour pouvoir atterrir.
Bon, ben, on va y aller.
Il y a une petite improvisation parce que les militants s'attendaient à trouver les grilles du chantier ouvertes. En fait, elles ont été fermées. Il n'y a pas de camion de chantier qui rentre. Donc, ils sont en train de revoir le plan d'action. Ils ont finalement décidé d'entrer sur le chantier en passant au-dessus d'un petit muret ou d'une barrière. Ce qui est évidemment un peu plus compliqué et inattendu.
Par où, pour moi ? Ben, ici.
C'est ça.
Ah, pour aller, ouais, parce que c'est là-bas. Pour faire le. Qui fait la grille ?
Je vais les anges gardiennés et après j'arrive.
Qui fait la grille ? Qui est prêt à passer derrière, s'il vous plaît ? Voilà,
c'est ça. Non, non, bah, c'est
bien. Pareil. Fais-moi la courte échelle parce que les grosses.
Vas-y.
Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en avait 5 qui est.
Tu marches sur moi, c'est pas plus simple que d'essayer de caler des pieds là-dedans. Ouais. Sur les bras ou les deux. Ouais. Que je te tienne.
À gauche, Fidelio et Olga viennent de s'enchaîner aux grilles à l'aide d'un cadenas fixé autour de leur cou. Et juste à côté de nous, d'autres militantes sont en train, elles, de taguer les murs des cabanes de chantier avec le logo d'Extinction Rebellion et des slogans « Patrimoine naturel saccagé »,« Laisse béton »,« Écocide en cours ». Une sono est aussi en train d'être installée. Et évidemment, on s'attend à l'arrivée de la police.
Ah oui, oui, s'il y a des graffitis sur la base vie, on est obligé de repayer l'état de la base vie. Mettez un papier, quelque chose. N'écrivez pas dessus.
Pourquoi ?
Parce que c'est nous, c'est l'occasion, c'est nous qu'on paye après. Ah, on paye tout après. Ah, tout. Tout, c'est pour notre pomme.
Ah bon ? Ah, oui. Vous, c'est qui ?
Entreprise.
Ah, l'entreprise qui exploite le
voilà,
truc là.
Et voilà. Donc si vous avez des banderoles, vous écrivez sur une banderole, vous l'accrochez.
La banderole qu'on va accrocher là-bas.
Voilà, là je suis entièrement d'accord, mais pas sur la base, s'il vous plaît.
Vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire ?
Oui, on les comprend, oui.
Bien sûr.
Et vous comprenez ce mode d'action ?
Oui, on le comprend, bien sûr, ils défendent une cause. Nous, on est exécutants, malheureusement. Nous, on ne peut rien faire. On nous demande de faire des travaux, on les fait. Après, leur action, je la comprends. Ils se défendent.
Pascal.
Pascal, vous êtes quoi votre fonction ici ?
Chef du chantier.
Oui.
Merci, de rien.
Vos idées sont datées, vos projets démodés. Vos méthodes condamnées, vous n'êtes pas sérieux. Non, ouvrez donc les yeux. Stop aux mensonges sécuritaires, aux destructions suicidaires. Vos projets sont condamnés, condamnés. Vos projets démodés, vos méthodes condamnées, vous n'êtes pas sérieux. Ouvrez donc les yeux. Stop aux mensonges sécuritaires, aux destructions suicidaires.
Ça bouge pas. Faites quoi à l'intérieur ?
La police vient d'arriver.
Mais vous êtes sur une propriété privée, sur un chantier, là, vous savez ?
Oui.
Bah oui, vous avez passé par où pour entrer là ?
On est escaladé.
Bah oui, mais il faut sortir, en fait. Vous ressortez, vous n'avez rien à faire là ? Merci.
Nous, on ne conteste pas non plus, mais il y a d'autres moyens de le faire. L'Amérique est si fière de son patrimoine d'habitude, parce qu'il y a une histoire de gros sous derrière, hein, comme d'habitude.
Tu vas vivre en sale quart d'heure, pollueur, prends peur. Tu vas vivre en sale quart d'heure.
L'opération se termine, elle a donc duré 2h30. Ça s'est déroulé dans le calme. Une dizaine de policiers municipaux et nationaux qui sont venus, qui ont pris les identités des militants. Mais il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de garde à vue, et tout le monde va rentrer chez soi. C'est une action symbolique, hein. Il y a des murs qui ont été tagués, il y a des affiches, des pancartes qui ont été étendues, mais elles sont en train d'être retirées d'ailleurs. Les tags, eux, vont rester. Une action symbolique surtout qui a servi à alerter les médias, parce que dans les faits, Bah là, dès lundi, le chantier va reprendre ici, dans ces carrières de meudon.
Je pense qu'on a eu ce qu'on voulait. On a été vu, on a été entendu. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Tous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous félicite vraiment tous pour votre implication. Bravo.
Ce type d'action suscite évidemment l'intérêt de plusieurs services de la police nationale, dont les renseignements. Ils travaillent sur ces mouvements écologistes et les surveillent avec une vigilance toute particulière ces derniers temps. C'est ce que nous a expliqué une source haut placée au sein de ces services de renseignement. Elle a accepté exceptionnellement de répondre à nos questions. Nous avons utilisé un logiciel sécurisé pour échanger.
On revendique le démontage de la pompe qui mettait hors de nuire cette bassine illégale.
On voit les actions symboliques se multiplier ces derniers mois, des actions menées par des militants écologistes qui se revendiquent radicaux. Est-ce un phénomène qui vous préoccupe ?
C'est un phénomène qu'on surveille, oui. D'autant que c'est un sujet qui, dans la contestation sociétale, est devant nous. Prenez par exemple un mouvement comme Extinction Rébellion, qui prône la désobéissance civile. Eh bien, on se rend compte que, même dans ces groupes-là, certains cherchent, désormais, à mener des actions un peu plus dures, un peu plus violentes, et souhaitent basculer dans la clandestinité. On le voit avec le sabotage des méga-bassines, les attaques sur les antennes relais, mais ça peut être aussi de couper des câbles Internet. Notre crainte est qu'un jour ça dégénère, soit parce qu'ils peuvent s'opposer à des personnes qui n'ont pas pour habitude de se laisser faire, comme les agriculteurs lors des manifestations contre les méga-bassines, soit parce qu'ils peuvent cibler les forces de l'ordre quand elles interviennent pour faire respecter l'ordre public. Pour nous, services de sécurité ou de renseignement, ça va être un phénomène à observer.
Quels sont les profils de ces militants qui se revendiquent radicaux ?
Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des personnes qu'on voyait peu avant dans ce genre d'action. C'est un public qui est très varié, avec des gens plus jeunes, qui se mobilisent, via les réseaux sociaux, des messageries sécurisées, ou lors de rencontres plus ponctuelles. Tout ça rend l'action des services plus délicate. C'est plus difficile de les détecter en amont, d'anticiper. Il n'y a pas une grande organisation nationale avec un leader. Le prétexte à action est différent aussi. Ça peut être l'installation d'un entrepôt Amazon, la construction d'une bretelle d'autoroute ou d'une aire de repos, l'installation d'un parc éolien. Tout à coup, cette lutte va fédérer localement d'abord, avec des militants écolos, des riverains, donnant parfois lieu à des alliances surprenantes, par exemple, des pêcheurs, avec des défenseurs de l'environnement, contre les éoliennes en mer. Ces mobilisations peuvent également fédérer des militants venus d'autres régions qui viennent s'entraider. Un échange de bons procédés, en quelque sorte, où ils se disent « si tu m'aides sur ma lutte, je t'aiderai sur la tienne ».
Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de militants qui pourraient basculer dans des formes d'action plus radicales ?
Je ne peux pas répondre à cette question, c'est confidentiel.
Est-ce que certains militants sont fichés S aujourd'hui ?
On n'en est pas encore à ce niveau-là de suivi, mais on n'en est pas loin pour certains.
L'enchaînement des catastrophes climatiques cet été nous a tous bousculés dans nos certitudes. Jusqu'où pouvons-nous aller pour éviter d'atteindre le point de non-retour ? À Sciences Po Grenoble, un cours amène les étudiants à s'interroger sur leur propre degré de radicalité. Stéphane Labranche est québécois, il est sociologue du climat ou climatologue de la société comme il aime à le dire, et voilà déjà 20 ans qu'il dispense ce cours intitulé « Séminaire climat, énergie et société » auquel ont assisté Nicolas Mathias et Mathieu Mondoloni.
Interception sur France Inter.
Mesdames, Messieurs, notre train TER Auvergne-Rhône-Alpes arrive en gare de Grenoble.
Bonjour.
Excusez-moi du retard, je pensais que c'était 11h.
Non.
Je suis désolée.
De l'après-midi, c'est pas grave. No pressure.
C'est pas du tout impressionnant. C'est vrai que là...
Non, Lucien Sapatier, et lui, il a fait Sciences Po. Bon, il y a quelques
j'ai
années
à peine. Sciences Po, il y a 1000 ans ici. Dans ces salles, j'ai été dans ces salles.
Incroyable. Il y a 1000 ans.
Ah oui, à peu près.
Oui, oui, on peut dire ça. Ouais.
On va peut-être fermer la porte et si j'ai moins d'autre chose, on ouvrira après. Okay.
Alors, la séance d'aujourd'hui, ça vise surtout à les amener à réfléchir sur leur propre position par rapport à comment agir à grande échelle sur les questions d'environnement et en matière de politique, notamment. Donc, est-ce que la démocratie suffit à sauver, protéger le climat, à sauver la biodiversité? Est-ce qu'il ne faut pas passer plutôt par quelque chose d'un peu plus dur, avec plus d'autoritarisme, voire quelque chose de radical? C'est le scénario d'écologie politique radicale qui préconise de se débarrasser d'une partie de l'humanité. Et il y a aussi cette option que j'aime beaucoup, qui n'est pas un scénario d'écologie politique, mais qui est plutôt une approche sensible, spirituelle, de l'approche du scénario Gaïa, mais qui vise à voir et à tester si les étudiants ont des motivations qui ne sont pas politiques, qui ne sont peut-être pas rationnelles dans leur mode d'interaction avec l'environnement, avec la nature. Donc, autrement dit, est-ce que l'amour de la nature joue un rôle?
Depuis 20 ans que vous suivez et que vous auscultez ces étudiants, à quel constat vous êtes arrivé?
Alors, très intéressant. Le premier constat, c'est que, bon, durant les premières années, tous les étudiants étaient tenaient mordicus à la démocratie. Et à partir de 2009-2010, je pense que c'est l'échec des négociations de Copenhague sur le climat, j'ai eu les premiers étudiants qui se voulaient écofascistes, totalitaires, autoritaires, mais aussi peut-être même radicaux, c'est-à-dire se débarrasser d'une partie de l'humanité. Pas tous. La plupart qui choisissent ces options ne le font pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a aucun autre moyen de sortir du pétrin dans lequel on est. Ils continuent à penser que la démocratie, c'est souhaitable. Ils voudraient bien que ça fonctionne, mais moins de jeunes y croient. Donc, ça reste un idéal, mais qui apparaît insuffisant pour certains d'entre eux. Pour d'autres, ça reste suffisant, ça peut fonctionner. Cette année, là, vous l'avez vu ce matin, record de nombre d'adhérents, on peut ça, ou de personnes qui pensent que l'approche Gaïa, c'est la bonne, mais ils ont tous la même question. Si j'ai une approche sensible à la nature, comment traduire ça en politique publique? Comment traduire ça en action? Et donc, c'est un moteur, mais pour eux, c'est pas un moyen. Et donc là, on se retrouve avec les autres scénarios de l'écologie politique qui offrent probablement des moyens. Et là, vous l'avez vu, on l'a ressenti un peu ce matin, je trouve. Plus on est pessimiste, et plus on est dur dans notre position des politiques publiques.
Avec les événements qui se sont déroulés encore cet été, on voit que le pessimisme est ambiant. Est-ce que vous la constatez, cette dureté, du coup, chez cette jeune génération, qui est celle aussi de ces étudiants que vous avez en cours?
Oui, et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose il y a quelques années où j'ai un de mes étudiants qui faisait partie d'un groupe d'étudiants écolos, et puis il vient me voir, il dit « Stéphane, il faut que je te parle d'un truc ». Il dit « On commence à discuter entre nous de passer en mode action ». J'ai dit « Tu veux dire quoi, action ?» Ben, s'attaquer à des infrastructures, à des voitures, on dit « Il n'y a pas question de s'attaquer à des gens, c'est sûr, on sait plus la méthode Gandhi, en fait, non? Nelson Mandela et tout ». Mais et ça lui posait question, réellement. Il se demandait dans quelle direction lui devrait aller, mais ce qui l'interpellait, c'est que là, les discussions sur cette question-là devenaient sérieuses. Quand on regarde justement les nouveaux modes d'action, ça correspond à ce que je trouve. Donc, il y a ce phénomène-là, mais c'est dans une petite minorité de la population.
Quand vous parlez d'une minorité à l'heure actuelle, hein, qui se radicalise, pour reprendre votre terme, vous pensez que ça peut grandir rapidement, au vu de ce que vous constatez aussi?
Ça a pris plus de temps qu'on le pensait à émerger, et je pense que ça va aller plus vite qu'on le pensait une fois que ça a commencé. Donc là, je vais vous demander de vous positionner, et de juste dire un petit peu pourquoi. Là, je suis là, mais en même temps, je suis là parce que. OK.
Donc on se positionne, où est-ce qu'on est, notre état d'esprit, ou qu'est-ce qu'on...
Ouais. Okay.
Alors je pense que l'idéal que j'ai, ce serait Gaïa. Mais ça me paraît très 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 compliqué, dans la mesure où ça veut vraiment dire qu'il faut repenser tout notre système de valeurs, tout notre système de... Donc je pense que c'est un idéal, mais...
Donc, pas de chance que vous ça... avez un pied ben, ailleurs aussi?
Comment, pardon? Et
je
pense que c'est pas forcément ce que j'ai envie, ce qui se passe, mais je pense que le scénario radical, pour moi, c'est le plus plausible, justement, comme vous disiez, que... Enfin, voilà, pour moi, c'est fondamentalement dans l'humain de détruire l'environnement pour son développement personnel.
on tente des choses pour faire participer tout le monde et ça marche pas. Du coup, pourquoi pas aller dans quelque chose de plus autoritaire ou de l'écofascisme pour essayer une nouvelle stratégie ? Parce que celles d'avant, elles ont échoué. Mais je vois pas trop d'autres possibilités en ce moment que d'imposer par la force, en fait.
D'abord,
par rapport à ce que Auguste avait dit, je suis hyper pessimiste sur la situation d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas des gens qui prennent le devant, même en étant autoritaire et même en faisant des choses qui ne sont pas forcément normales, ça n'avancera pas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est la seule solution possible, même si ce n'est pas une solution qui est viable, même si ce n'est pas une solution qui est souhaitable. J'ai l'impression que l'environnement, c'est à la base aussi de tous les autres problèmes, enfin les problèmes sociaux, et c'est toujours les plus pauvres qui prennent dans la gueule. Et du coup, le truc autoritaire ou fasciste, ça serait aussi... Eh bien, c'est comme ça que ça changerait réellement les choses.
Ben, merci de vous avoir tous prêté cet exercice. C'était cool. Et puis, c'était bien aussi de vous rencontrer, même si, encore une fois, c'est un peu différent de d'habitude. Et donc, on se revoit dans 2 semaines.
Ah oui, pour les sujets de mémoire, vous pouvez aller les voir, ils sont tous à la bibliothèque. Ouais. En fait, tous ceux qui ont plus de 15, et la plupart des mémoires ont plus de 15.
Pour eux, Alexis, l'urgence climatique justifie de durcir le ton.
On les a découverts ces derniers mois quand ils ont fait irruption sur les cours de Roland-Garros ou interrompu le Tour de France. Ces jeunes militants écologistes, plus radicaux que leurs aînés. Après un été de catastrophes environnementales, le phénomène va-t-il prendre de l'ampleur en cette rentrée sur fond d'éco-anxiété ? Dernier exemple en date, ce golf pris pour cible le week-end dernier dans l'Oise. C'est le 7e en quelques semaines. La pelouse a été arraché à coups de pioche. Le collectif à l'origine de cette action, les sangliers radicalisés qui dénoncent la consommation inutile de la ressource en eau.
C'est avec deux des membres de ce collectif que nous avons rendez-vous ici dans un parc à Paris. Je ne peux évidemment pas vous dire le nom de ce parc pour éviter de donner le moindre indice sur leur identité. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont moins de 30 ans, que leurs pseudos sont Nago pour lui, Moineau pour elle, et qu'ils ont demandé à ce que leur voix soit modifiée. Jusqu'ici, ils ont toujours refusé de rencontrer physiquement des journalistes, préférant répondre aux questions par mail ou par téléphone. Mais pour France Inter et Interception, ils ont, et c'est une première, accepté ce rendez-vous.
Nous sommes les Sangliers Radicalisés. Nous sommes un collectif de militants écologistes nouvellement formés. C'était il y a une dizaine de jours. Donc les Sangliers Radicalisés sont pénétrés de nuit dans l'enceinte d'un golf et ont saboté le terrain, donc en arrachant des bouts de gazon sur les greens, qui sont toujours arrosés malgré les restrictions en vigueur du fait de la sécheresse, ainsi que les drapeaux, les pancartes et les arroseurs, qui ont été vandalisés aussi.
Vous avez revendiqué l'acte, enfin les sangliers ont revendiqué l'acte, et vous avez aussi laissé des inscriptions.
Pour nous, c'était important que à notre passage, ça soit visible que c'était politique ce qu'on a fait, et que c'était pas... juste des personnes qui sont allées au hasard pour embêter un golf sans raison. Du coup, on a laissé des messages à la fois humoristiques et politiques.
Par exemple, pour les messages qu'on a laissés, on a pu écrire « C'est même pas un vrai sport » ou « Bourgeois, vos passe-temps sont tout pourris ». Les golfs, c'est vraiment un symptôme du privilège d'une classe vraiment puissante avec un certain nombre de privilèges, notamment celui d'arroser leurs loisirs. Quelque part, ça pique toujours les puissants.
Si on regarde, si on dézoome et qu'on voit qui est en train de détruire notre propre planète, les choses sont très visibles en fait. C'est une minorité de la population qui s'est accaparée les pouvoirs économiques et politiques. Et du coup, en effet, le combat écologique, on le mène contre cette classe-là.
L'écologie, c'est une guerre qui est menée par la classe capitaliste contre le vivant tout entier, plus spécifiquement les humains. Et donc, c'est pour ça que c'est intimement lié aux questions de justice sociale. Et voilà, moi je pense que c'est eux ou nous finalement. Ça va être soit les bourgeois qui vont continuer à détruire les écosystèmes terrestres jusqu'à ce que les humains ne puissent concrètement plus y habiter, soit on se débarrasse de leur système de production de richesse à eux.
Vous employez le mot guerre, une guerre qui est faite contre la planète, hein, si je reprends. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en tant que militant en guerre contre ces gens-là aussi ?
Je ne reprendrai pas forcément le mot que nous on mène une guerre, parce que justement c'est des mots qui viennent des nations, de leurs armées. Par contre, le fait qu'on entre en résistance et que c'est une résistance dans laquelle on va devoir durcir le ton, ça oui. Moi je l'ai peut-être fait à un moment, de signer des pétitions, faire des marches, en fait ça ne va jamais suffire. Malheureusement, là, le rapport de force est en notre défaveur. On va être obligé de durcir le ton et en effet d'aller là où ça fait mal, de réfléchir stratégiquement et du coup de mener des actions potentiellement offensives de résistance.
Bon voilà, après on n'a pas forcément le même vocabulaire tous les deux. Hein. Moi, par exemple, j'ai pas trop de problème avec le mot de guerre et même guérilla. Il y a une vraie gradation en fait des moyens employés. Au fur et à mesure que l'actualité climatique devient de plus en plus brûlante, on voit bien que les moyens deviennent de plus en plus radicaux. Pour moi, c'est un processus vraiment normal en fait. Plus on constate qu'on est mis au pied du mur, que les écosystèmes sont en train d'être ravagés, que le gouvernement durcit la répression, bah oui, on va arrêter de militer à visage découvert et on va se cacher. On va arrêter de demander aux riches de consommer moins d'eau et on va leur faire consommer moins d'eau. Quand on constate qu'être gentil, ça ne marche pas, on va devenir de moins en moins gentil.
Vous êtes recherché par les forces de l'ordre, vous risquez quelque chose. Est-ce que vous avez conscience des risques que vous prenez aujourd'hui ?
On a conscience des risques et on a fait tout pour les limiter. Par exemple, le visage couvert et le fait de faire tout pour ne pas être identifiable, c'est une première mesure de précaution par rapport à des collectifs qui pratiquent la non-violence en donnant leur identité ou leur visage. Et autre chose, quand on fait ce genre d'action, il faut retourner là où on dort sans preuve sur soi. Nous, par exemple, on est allé sur Action sur nos téléphones. Pareil, c'est une preuve de si jamais on a été localisé à cet endroit-là, là, il n'y a pas ça. Donc en fait, si jamais il remontait jusqu'à nous, le procès il serait sur du vent. Il n'y aurait rien.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui aussi un conflit de génération ?
Moi, je pense que de fait, oui. Enfin, on peut le constater dans les votes. Je ne comprends pas pourquoi la génération des 50 ans et plus n'accorde aussi peu d'importance au monde qu'ils vont laisser à leurs enfants. À leur place, j'aurais honte. Malheureusement, c'est vrai que c'est une génération sur laquelle la honte glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et j'ai pas d'explication.
Moi, je dirais que plus que de l'égoïsme, le mécanisme que je constate, c'est le déni. Enfin, moi, je vois dans les générations de mes parents, c'est l'humain, c'est toujours débrouillé. On va trouver des solutions. Il va y avoir une super invention pour de l'énergie magique qui va arriver. Les jeunes, ayez de l'espoir. En fait, moi, j'entends déni, 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 parce que c'est pas acceptable pour eux.
Une question rapide, Agnès Pannier-Runacher, concernant la polémique sur les jets privés. Êtes-vous sur la ligne de votre collègue du gouvernement, Clément Beaune, qui dit qu'il faut réguler? Ou non, pour vous, c'est un faux problème?
C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique.
On l'a entendu dans la bouche de Nago et Moineau, ces deux militants membres du collectif des sangliers radicalisés. Il y a un mot qui revient souvent, c'est radicalité. Une radicalité qu'ils assument, qu'ils revendiquent. Ils expliquent qu'ils sont prêts à aller plus loin aussi dans leur mode d'action, dans leur lutte clandestine pour susciter cet éveil écologique. Il y a un philosophe qui s'est beaucoup penché sur ces questions-là, c'est Dominique Bourg. Et on va l'interroger justement sur cette jeunesse qui se revendique désormais beaucoup plus radicale.
On a affaire à un problème radical, donc de racine en fait. C'est la dégradation de l'habitabilité de cette planète. Nos jeunes savent ça, pas simplement les nôtres, mais la jeunesse mondiale. C'est grave, c'est de plus en plus grave, et on ne fait rien. En revanche, l'éco-anxiété, elle est très forte, et c'est vraiment un phénomène dominant auprès de la jeunesse aujourd'hui. Donc oui, c'est, si vous voulez, le cocktail est détonnant. Alors, effectivement, on a eu jusqu'alors affaire à ce qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est mettre en défaut le droit pour le faire évoluer, pour accélérer son évolution, pour générer un droit nouveau. Un droit à l'environnement, un droit climatique, etc., une justice climatique. Et donc, c'est pas contre la loi, c'est contre un état momentané de la loi pour le faire plus rapidement évoluer. Ça ne marche pas. Jusqu'alors, ça n'a pas marché. Pour que cela marche, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se mobilisent. Ils sont trop peu nombreux pour que ça fonctionne. Donc du coup, si on reste dans cette perspective-là, oui, on peut redouter que on passe de la non-violence, parfois presque limite, à une franche violence. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est très probable et on peut le comprendre.
Quand on voit ce qui s'est passé encore récemment, je fais allusion par exemple à cette vidéo ces dernières semaines de Kylian Mbappé, de l'entraîneur du PSG, Galtier, qui rigolent quand on leur demande s'ils ne devraient pas préférer le train à leur jet privé. Est-ce que tout ça va être un accélérateur ?
Oui, mais alors là, on a affaire à ce qu'on appelle un phénomène de séparatisme. Ça vous donne un Musk qui va vous parler d'aller sur Mars, qui est une connerie totale. Vous connaissez aussi ce projet qui s'appelle Atlantique, ou d'un autre milliardaire américain, qui est en train de construire des îles artificielles pour y mettre tous les riches du monde. Bon, voilà, il y a ce fantasme des riches de faire sécession avec les autres. Et la réflexion d'un Mbappé et d'un Galtier, c'est de cet ordre-là. Nous, footballeurs, vous imaginez bien, on est bien au-dessus du vulgus pecum, le peuple, on s'en fout, mais on s'en fout complètement, on vit ailleurs. Vous, effectivement, vous pouvez peut-être prendre le train, mais moi, non, pas question, je continue à prendre l'avion pour un trajet ridicule. Hein, n'oubliez pas qu'un avion, l'essentiel du kérosène qui est dépensé, c'est au décollage. Donc, quand vous faites peu de kilomètres derrière, vous avez pratiquement consommé autant que si vous avez traversé l'Atlantique. Donc, oui, ça, c'est des choses qui sont totalement intolérables, comme le fait de continuer à arroser des golfs alors que vous avez des vaches qui crèvent de soif, quoi. C'est complètement dingue. Donc, oui, il y a ce phénomène-là. S'ajoute à ça un phénomène générationnel, sans doute, d'une espèce d'égoïsme de vieux. Moi, je m'en fous, j'en ai plus que 10 ans, alors ils se trompent, parce que dans les 10 ans, on va déguster. Mais en plus, s'ils ont des enfants, des petits-enfants, c'est, franchement, moralement, c'est quand même pas très élevé comme attitude. Et alors ça, c'est un motif à violence.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner un peu d'espoir aujourd'hui? Parce que quand on discute avec vous là en ce moment aussi, on se rend compte que le tableau est très sombre, que le futur est angoissant. On parle beaucoup d'éco-anxiété, d'éco-colère aussi qui succède à cette éco-anxiété. Totalement. Des militants m'ont parlé de ça. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quelque chose?
Alors déjà, pour revenir sur l'éco-anxiété, si vous voulez, l'éco-anxiété, si on ne sait pas la métaboliser, si on ne sait pas la transformer, et donc si on ne veut pas être rongé soi-même par les passions tristes, hein, eh bien, alors on a l'action. En tout cas, si vous laissez l'angoisse se bloquer sur la colère, vous détruisez, vous avez envie de tout détruire, ce qui, franchement, n'est pas la meilleure réponse quand on a justement un paysage de destruction. Ce n'est pas l'éco-anxiété le problème, c'est l'absence de réponse de la société. Donc, tant qu'on a des dirigeants qui ne veulent rien voir, ben voilà, ils alimentent une machine qui risque à un moment donné de les dépasser.
Est-ce que ceux qui montrent du doigt ces militants ont raison de dire « ce sont de dangereux extrémistes » ?
Alors, en fait, si vous voulez, leur extrémisme, c'est un reflet, c'est un jeu de miroir. Le vrai extrémisme, l'extrémisme premier, c'est le consumérisme absolu de notre société. C'est délirant. En fait, on mobilise l'énergie pour détruire. Si vous appelez pas ça de l'extrémisme, je sais pas ce que c'est l'extrémisme.
Bonjour, Paul Arruturo, LCI. Une question, j'allais dire, extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà.
En faisant de telles actions de sabotage, les militants prennent des risques. Être arrêtés, placés en garde à vue, leur engagement peut aussi les conduire jusqu'au tribunal. Ce fut le cas pour des militants du collectif pour la défense des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Ils s'opposent à la bétonisation de ces espaces verts, censés accueillir le solarium de la piscine olympique pour les JO de 2024. Pour leur action, 8 militants se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils risquent entre 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Vous, des médias, vous êtes quoi? Moi, c'est la police.
On est France Inter.
France Inter,
ouais.
Ça marche.
C'est pour que ça se passe bien tranquille.
Ouais.
Voilà, puis je les accompagnerai s'ils vont à l'audience tout à l'heure.
Vous dites la police, c'est quoi les renseignements?
Non, ouais. Je suis le BVP local.
D'accord, ok.
Ils sont déjà venus, voilà, mais après là c'est délibéré, donc peut-être que ce sera peut-être moins calme s'ils sont déboutés ou.
Ou s'ils sont condamnés.
Ou condamnés, je pense pas.
Non.
M'étonnerait, hein.
Ouais. C'est midi et demi, c'est ça?
Midi et demi. Pardon.
Parmi ces militants, il y a Chloé. Elle a 26 ans, on a rendez-vous avec elle ici au tribunal de Bobigny. Elle m'a envoyé un petit texto, je vais le reprendre parce qu'il y avait le point de rendez-vous précis. C'était pas devant le tribunal, c'était un peu à côté, près de la passerelle qui est juste là. Merci.
Moi ça m'arrange si je peux attraper un café au passage.
Ah bah alors allons prendre un café.
Je vous ai pas demandé, Chloé, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, à la base, je suis juriste en droit de l'environnement et j'ai fondé une association qui s'appelle Terre de Lutte, dont je suis la co-présidente. J'ai aussi beaucoup milité avec Extinction Rébellion. J'ai milité à certains moments et sur certaines mobilisations avec les soulèvements de la Terre. Et évidemment, du coup, je suis militante du collectif pour la protection des jardins d'Aubervilliers aussi.
Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi on est là aujourd'hui au tribunal de grande instance de Bobigny?
Bien sûr. On est ici parce qu'il y a 8 militants et militantes qui vont être jugés pour avoir bloqué un chantier. Ce chantier, c'est le chantier des jardins ouvriers d'Aubervilliers sur lequel il était prévu de mettre un solarium et une piscine olympique.
Aujourd'hui, on vient aussi dire à Anne Hidalgo, faut arrêter de laver ton linge sale pour Paris 2024 dans la banlieue.
Cette zone, elle ne devrait pas être urbanisée. Mais pourtant, les travaux continuaient et la bétonneuse allait être mise en place. Et en fait, bétonner les jardins, c'était vraiment l'arrêt définitif. Plus de vivants, plus de biodiversité. Les chantiers avaient déjà commencé, mais là, c'était un peu le dernier acte qui marquait vraiment la mort. Et c'est très difficilement réversible une fois qu'on a coulé le béton. Et du coup, on devait s'opposer à ce que le béton soit coulé.
Qu'est-ce que vous avez fait, du coup ?
On est arrivé sur le chantier, on était une trentaine d'activistes et on est 8 militants et militantes à s'être enchaînés à la bétonneuse, en tout cas à s'être attachés avec des cadenas et des chaînes.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Les forces de l'ordre sont arrivées très vite, ils étaient très nombreux et nous on a été placés en détention et donc en garde à vue pendant 34 heures de garde à vue. On est ressorti de ces 34 heures de garde à vue en ayant une convocation au tribunal aujourd'hui. On est jugé sur la base de l'article 433-11 du code pénal qui en fait punit le fait d'entraver des travaux d'intérêt public ou des travaux publics.
Et vous risquez quoi là ?
La peine maximale encourue pour ce chef d'accusation, c'est un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende par militant.
Est-ce que pour vous aujourd'hui, il faut être prêt à prendre ces risques-là ? Celui d'être jugé, celui d'être condamné, éventuellement à de la prison ?
Moi, je pense qu'il est essentiel de le faire. En tout cas, moi, j'imagine pas ma vie sans faire ça. Et je pense que ça serait impossible, en fait, de rester dans l'inaction. Et j'ai beaucoup entendu parler d'éco-anxiété cet été. J'ai l'impression que ça a fait vraiment tous les titres dans tous les médias. Et moi, aujourd'hui, si je souffre pas d'éco-anxiété, je pense que c'est parce que je souffre d'éco-colère. Et donc, vraiment quelque chose qui nous pousse à aller plus fort, plus en avant, et en fait, à aller réclamer sur le terrain ce qu'on est en train de dire.
Quitte à risquer la prison, des amendes, etc. Il faut le faire aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'on n'a plus le choix.
Comment vous expliquez cette radicalité chez ces jeunes militants que vous êtes ?
Il y a un problème récurrent de promesses, de traiter les symptômes et de traiter les problèmes qu'on a à court terme. Alors déjà, ces promesses-là, elles sont pas tenues, les promesses de traiter à court terme. Du coup, je pense qu'on a tous l'impression que ça ne marche plus, en fait, de mettre des pansements et des bandages. Et on se questionne tous sur quelle est la source du problème. Et donc, aller traiter, en fait, le problème dans sa profondeur, c'est réformer le système capitaliste.
Mettre un terme au système capitaliste aujourd'hui, ça peut vouloir dire aussi, dans la bouche de certains, une révolution ou une forme d'action beaucoup plus violente. Est-ce que vous, vous êtes prête à aller jusque-là ?
Je peux pas répondre à cette question.
Pourquoi ?
Je suis fichée.
C'est vrai ?
Ouais, je suis fichée. Si je réponds à ce genre de questions, ça sortira dans un tribunal.
D'accord.
Et ça peut pas passer. Hein.
Je vais reformuler la question. Est-ce qu'à votre connaissance, certains militants seraient prêts à aller plus loin ?
Je pense que on est prêt, en tout cas, à aller aussi loin que le capitalisme et le système dans lequel on est va pour nous opprimer et pour nous priver des ressources qui sont nécessaires à notre futur.
L'audience a duré un peu plus d'une heure pour les 8 prévenus. Il y avait une trentaine de militants dans la salle pour les soutenir face aux 3 juges du tribunal et aux procureurs dont les réquisitions sont désormais connues.
Comment ça s'est passé, Chloé, alors ?
Ça s'est bien passé, les témoins ont été incroyables, les avocats ont plaidé de manière assez magnifique l'état de nécessité et la liberté d'expression. Le procureur requiert une peine qui serait de 2500 euros d'amende avec sursis. On espère obtenir la relax.
Décision quand ?
Le 16 septembre à 13h.
Bon bah voilà.
2300.
2500.
2500, ouais, avec sursis.
Bientôt pour le procédé d'Amelina.
Allô, allô. Impeccable. Trop bien. Et bonjour tout le monde. On va commencer quelque chose qui va ressembler à une conférence de presse. L'idée, c'est de faire un peu le contexte de la lutte, vous expliquer pourquoi on est toutes et toutes aujourd'hui ici et où on en est, la lutte des jardins, car elle n'est pas finie. Et tout de suite, pour nous expliquer tout ça, je passe la parole à Dolores.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord d'être là. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde réuni pour les jardins. Donc, il s'agit d'une lutte pour sauver 4000 m2 qui sont concernés aujourd'hui pour un solarium d'une piscine olympique.
Le jugement a été rendu 15 jours après cette audience, en présence du comité de soutien et des 8 prévenus. Et comme promis, Chloé nous a tenus au courant.
Ces décideurs décident de détruire les gens.
Salut, Mathieu, c'est Chloé. On vient de sortir du tribunal. Écoute, on a été relaxés. On n'est pas condamné pour avoir bloqué des travaux d'utilité publique ou d'intérêt public, ou même public. C'est une super décision. On est soulagés, on est hyper contents. On espère que ça va pouvoir servir à tous les autres militants et militantes qui luttent contre des travaux illégaux, car ils détruisent le vivant. On ne s'arrête pas, on va continuer et tabler là-dessus pour essayer d'empêcher notamment la gare qu'ils veulent mettre et qualifier d'utilité publique justement pour détruire encore plus de parcelles. Donc on va utiliser cette jurisprudence autant qu'on le peut pour protéger les jardins d'Aubervilliers. Salut.
La tentation radicale des militants écolos, Mathieu Mondoloni a signé ce reportage, Gilles Gallinaro et Nicolas Mathias en ont assuré la prise de son, réalisation Jérôme Chélius avec l'assistance de Martine Messonnier, mixage Valérie Lavalard. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.